Salon Noir. Une fois, le salon noir sera vraiment noir, ponctué par des mots terribles, défiction, exécration, malédiction, puisqu'il sera aujourd'hui question des pratiques magiques et de l'envoûtement au cours de l'Antiquité. Avant de plonger dans les premiers siècles de notre ère, revenons sur l'actualité qui a suscité cette émission. Voici environ un an, je me suis rendu au Mans, sur le site des Jacobins où Pierre Chevet de l'INRAP dégageait les dépouilles du massacre de la virée de Galerne, l'affrontement de la Convention et des armées catholiques et royales vendéennes en 1793. Nous avions alors pu voir la violence des combats, les impacts d'armes blanches sur femmes, hommes, enfants jetés par la suite dans la chaux-vive. Depuis, Pierre Chevet a continué ses fouilles pour atteindre l'Antiquité, découvrir un sanctuaire antique dédié à quelques divinités aquatiques. Parmi les offrandes collectées dans les eaux sombres, pièces d'or et d'argent, mais surtout plaques de plomb, indéniablement liées à quelques pratiques magiques. Michael Martin, bonjour. Vous serez aujourd'hui notre spécialiste de ces étranges pratiques, puisque docteur en histoire ancienne, vous avez consacré l'essentiel de vos recherches à ces phénomènes magiques. Pour preuve, vous avez publié « Sois maudit, malédiction et envoûtement dans l'Antiquité » aux éditions Errance. Michael Martin, 6 tablettes ont été découvertes au Mans. 2 ont été déployées, 4 sont encore obturées ou fermées. Que peuvent-elles contenir?
Bonjour. Eh bien déjà, ces tablettes, c'est vrai, il y en a qui sont encore à l'étude, mais d'après ce que j'ai pu en voir sur les tablettes qui ont été ouvertes, on peut voir des signes, des figurés. Et ces tablettes permettent de faire des parallèles avec les tablettes qui ont été découvertes à Bath, en Angleterre, et qui représentent, qui ont elles aussi ce type de signes. Donc, on peut penser à que ce sont des tablettes qui se rapprochent des tablettes de défiction, qui sont des tablettes magiques, et qu'elles pouvaient contenir des écrits, soit des écrits magiques, soit qu'elles servaient de support à un rituel magique, avec bien sûr un morceau du vêtement de la personne qui était envoûtée, une mèche de cheveux par exemple. Voilà ce que l'on pouvait trouver à l'intérieur, puisque là, dans ce cas précis, on n'a pas de texte que l'on peut véritablement utiliser encore. Peut-être que celles qui sont à l'étude, celles qui seront ouvertes à l'avenir, nous livreront d'autres secrets.
C'est intéressant parce que vous parlez de Bath en Angleterre. Bath en Angleterre est un grand sanctuaire, oui, et aussi un grand sanctuaire des eaux. Je crois qu'on y a trouvé plus d'une centaine de tablettes.
Plus d'une centaine de tablettes, la plupart inscrites, mais certaines ne portaient que des figurés à la manière de celles du Mans. Et certaines portaient même des lettres de l'alphabet. Et pourtant, elles ont un caractère magique qui est incontestable.
Alors, vous dites figurés. Qu'est-ce que ça veut dire figurés? C'est-à-dire qu'on a des petits signes.
On a des petits signes que nous.
Mais pas d'écriture en réalité.
Pas d'écriture, pas de sens pour nous, mais certainement un sens pour la personne qui les a déposés à cet endroit-là, et certainement tout autour un rituel sur lequel nous reviendrons certainement par la suite.
Donc la première a des signes et la deuxième n'a absolument rien. Alors vous me dites, on y glisse dans ces cas-là quelque chose?
Tout à fait, on pouvait glisser ce qu'on appelle l'oussia. L'oussia, c'est quoi? C'est une partie de la personne, un lien pour que la magie sympathique puisse se mettre en œuvre. Donc soit une partie, un morceau du vêtement que l'on a glané, soit une mèche de cheveux, là aussi, que l'on a ramassée et qui pouvait être placée à l'intérieur de ces tablettes qui étaient pliées ou roulées et déposé à ces endroits.
C'est-à-dire que l'on écrit ou on y insère quelque chose, on le ferme et ensuite on va le jeter dans des profondeurs là
exactement,
où on
voilà.
risque pas de la retrouver.
Exactement.
Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que la défictio? Défictio en latin, bien sûr. Défiction en français, un mot peu usité.
Un mot peu usité à qui la terminologie dans ce domaine d'études nous vient d'Augusto Dolan, fin 19e, début 20e, et qui va fixer cette terminologie. On parlait auparavant plutôt de tablette d'exécration. Et là, on est dans des tablettes tablettes de défiction pour Odolan. C'est véritablement des tablettes. La défiction, c'est clouer. Le clou est en relation avec ces tablettes. C'est clouer une personne, c'est la fixer. En grec, on parlera plutôt de katadesmos, mais l'idée est la même. En clair, ça veut dire envoûter. On envoûte une personne, on cherche à agir sur une autre personne.
C'est bien sûr, l'objectif est bien sûr d'envoûter un individu, de soumettre à sa volonté un rival. Donc c'est une sorte de rituel de contrainte.
Hein. C'est un rituel de contrainte, tout à fait. C'est la contrainte qui est... c'est la ligature, le lien qui est derrière tout ça.
Le lien ou le clou, bien sûr. Oui. Où ce rituel de défiction puisse-t-il ses origines ?
Alors, ses origines, il y a deux possibilités. Soit on a une origine qui est externe au monde grec et romain. Alors là, on pense immédiatement au monde oriental, à la Mésopotamie, où on retrouve des textes qui sont assez proches, mais dans un contexte un peu différent, qui ne vont pas aussi loin, véritablement, dans l'envoûtement. On cherche plutôt à se prévenir contre ce type d'envoûtement. On retrouve aussi des textes, et notamment des figurines d'envoûtement en Égypte, mais là, dans un niveau auprès des pharaons, contre les prisonniers des pharaons, pour pas que les pays se retournent contre l'Égypte. Donc ça, c'est d'origine extérieure, auprès desquels les Grecs ont pu puiser. Mais on peut penser aussi à une origine interne. Les Grecs ne sont pas allés certainement chercher bien loin. Il y avait certainement tout un tas de formules qui existaient déjà à l'oral et qui sont passées à l'écrit lorsque celui-ci est apparu.
Pourtant, le monde grec, on connaît bien sûr la mythologie grecque. Oui. On ne voit pas du tout des fictions au travers du monde grec. C'est que c'est peut-être un petit peu plus caché que
c'est
le reste.
C'est un peu plus caché. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, dans la période archaïque, beaucoup de choses nous échappent encore, comme le personnage du chaman, qui est du chaman grec, qui est très présent, qui fait polémique, certes, mais qui est très présent et qui serait une des traces aussi. Donc l'univers magique était très présent dans la Grèce archaïque.
Mais les chamans, on en voit partout, mais on en voit même en préhistoire. En tout cas, dans le monde mésopotamien, il pourrait y avoir un lien entre le monde mésopotamien et la Grèce antique.
Il pourrait y avoir un lien, effectivement, avec des... Et puis les Hittites auraient pu servir, hein, parce qu'ils utilisaient beaucoup le plomb, sur lequel on reviendra. Donc on peut penser que effectivement l'Orient aurait pu servir de passerelle à ce type de pratique, mais là aussi dans un contexte qui était un peu différent. Donc véritablement la pratique qu'on a aujourd'hui à travers les découvertes archéologiques est une pratique qui est bien sûr grecque.
Les Hittites, bien sûr, qui occupent l'actuelle Turquie. Pourquoi utiliser du plomb ?
Pourquoi utiliser du plomb ? Pour deux raisons. À la fois des raisons qui sont pratiques et des raisons qui sont symboliques. Alors tout d'abord, les raisons qui sont pratiques. Le plomb, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qu'on peut prendre sur des canalisations, que l'on peut utiliser, et qui est facile à écrire. Avec un stylet, on grave très bien du plomb. Donc ça, c'est des raisons qui sont pratiques. Après, il y a aussi des raisons symboliques. Le plomb, c'est un métal sombre, qui est en lien avec le monde chthonien, d'ailleurs le Saturnien,
le
monde des profondeurs. Chez les Romains, il sera en lien avec Saturne. Et donc, véritablement, un métal sombre, véritablement, que l'on va utiliser aussi pour des raisons symboliques et que l'on va plier. Donc, des raisons... double raison, là, deux niveaux de raison qui peuvent se trouver.
Et puis c'est un métal froid.
C'est un métal froid, voilà, exactement. C'est un métal froid, mais il y a vraiment le symbolique et le pratique qui sont présents dans les raisons du plomb.
Est-ce que l'on a d'autres métaux ?
On a d'autres métaux. On retrouve des tablettes sur étain, notamment. On retrouve des tablettes... Alors après, sinon, on n'est plus véritablement dans la défiction. On va plutôt dans le domaine du phylactère, de se protéger justement des envoûtements. Et là, on retrouvera des tablettes en or, des tablettes en argent. Mais là, on se protège. Pour ce qui est de la défiction et de l'envoûtement, on est dans des tablettes qui sont en étain, en plomb, quelques cas en fer, et puis après d'autres supports existaient. Les sources littéraires nous parlent de tablettes en cire qui sont disparues, mais aussi de tablettes qui étaient sur papyrus. On a beaucoup de tablettes sur papyrus qui proviennent d'Égypte.
On connaît à peu près combien de tablettes de défiction dans le monde antique, c'est-à-dire entre l'Égypte et l'Angleterre.
Aujourd'hui, on connaît environ 2000 textes, 2000 tablettes qui ont été révélées.
Et combien de spécialistes ?
Combien de spécialistes ? Peu de spécialistes, encore peu de spécialistes, une dizaine de spécialistes de ces documents.
Pourtant, la magie est un sujet qui commence à intéresser les archéologues et les historiens.
Oui,
ça devient assez à la mode. Il y a eu une expo au Louvre il n'y a pas longtemps sur la magie en Égypte.
Exactement, c'est un sujet qui commence à être à la mode, notamment dans les études classiques. Il y a eu des expositions, notamment à Argenteau Magus et à Jublin, sur la magie dans le monde gallo-romain, notamment. Et donc, ça commence à intéresser un public un peu plus large. Chaque année, il y a des étudiants qui se tournent vers les spécialistes pour faire des mémoires sur ce sujet-là, sur les tablettes ou sur d'autres sujets, sur des divinités qui ont trait à la magie. Donc, c'est un sujet véritablement qui intéresse et qui commence à être positionner véritablement à sa juste valeur. On ne regarde plus uniquement à travers les sources littéraires comme on l'a fait jusqu'aux dans les années 70. On se tourne aujourd'hui de plus en plus vers des sources directes, vers les papyrus magiques, qui sont des véritables manuels de magie, mais aussi vers ces tablettes de défixio dont on parle aujourd'hui.
Et donc vers l'archéologie. Vous me parliez d'une origine grecque, mais vous ne m'avez pas dit à quel siècle à peu près apparaissent ces malédictions.
6e siècle avant Jésus-Christ. Le premier texte remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ, et on a des textes jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Pour l'Antiquité, véritablement, on a 12 siècles, là, véritablement, des textes.
Est-ce pour cela que, visiblement, le grec a souvent été privilégié pour pratiquer ses malédictions ?
Oui, c'est une raison. Le grec a été privilégié, déjà parce que c'était celui qui était le premier, qui a été utilisé le premier. Et puis après, pour d'autres raisons, pour les Romains, le grec représentait une touche d'exotisme, il représentait une pratique qui leur était un peu extérieure, donc étrangère, donc étrange. Donc voilà aussi pourquoi on utilisait le grec de façon privilégiée.
Et puis, il n'y a pas que le grec et le latin. On sait d'ailleurs qu'il y a des textes gaulois.
Il y a des textes gaulois, voilà. Il y a des tablettes qui ont été découvertes, notamment à Chamalières, à l'hôpitalier du Larzac, et ailleurs, et qui sont des textes parmi les plus longs que l'on ait en langue gauloise. Donc, c'est vraiment des textes originaux et qui nous révèlent plein de choses sur, notamment, ces langues qui étaient utilisées, qui sont aujourd'hui disparues.
Pour transcrire leur religion, l'écrit était absolument interdit chez les Gaulois, du moins les Gaulois avant la conquête. Pourquoi dans ce cas, certains textes liés à la magie gallo-romaine sont écrits en gaulois ?
On peut parler là d'un véritable phénomène d'acculturation qui touche à la société gallo-romaine, qui va véritablement prendre à son compte ces pratiques magiques. Déjà à travers les Grecs, par la Gaule du Sud, par Marseille, on a retrouvé dans le sud de la France des tablettes qui étaient rédigées en grec, et puis avec l'arrivée des Romains dans l'ensemble de la Gaule, véritablement, on va avoir une acculturation et ces pratiques magiques qui vont atteindre les mentalités gallo-romaines, qui vont être véritablement friables à ce type d'influence et qui vont utiliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est censé marcher. Donc, ça intéresse si c'est censé marcher. Donc, on n'a pas de mal, véritablement, à utiliser une pratique, même si elle est extérieure.
Michael Martin, vous me parlez d'acculturation. Moi, je vous parlerai plutôt de permanence de la langue gauloise.
Oui, une certaine permanence, mais là aussi dans un domaine, dans un côté un peu exotique. Pourquoi on utilise le gaulois ? Eh bien simplement parce qu'il représente quelque chose qui n'est pas accessible à tous, qui est là pour le coup autochtone et que certaines personnes peuvent traduire, peuvent comprendre. Et ça a un côté, le gaulois avait un côté magique qui portait en lui.
Alors je reviens sur le texte de Chamalières, dont vous me disiez qu'il était le plus long en langue gauloise. Bien sûr, des textes magiques. On a même quelquefois des textes bilingues.
Oui. Des fois, les langues se mêlent et il y a des textes qui ont des langues que l'on ne connaît pas, des langues qui sont totalement incompréhensibles pour nous. Et pourtant, il y a les deux langues qui sont à côté les unes des autres et qui se côtoient.
Une sorte de bolo-bolo.
Tout à fait, exact. Notamment, on a du latin et du grec, souvent sur des tablettes nord-africaines. Ça arrive très communément.
Qu'est-ce que nous raconte le texte de Chamalières ?
Alors le texte de Chamalières, c'était une défixio qui a été jetée dans une source. Une source qui était dédiée à un très bon article de Monsieur Sergent là-dessus, qui était dédié à Maponos. Donc on a découvert beaucoup d'ex-voto dans la source des roches à Chamalières, et on a découvert cette tablette de plomb, donc qui porte un très long texte en gaulois et qui raconte à qui dévoue une personne et qui demande au fond une ordalie, qui demande à Maponos de juger la personne qui est dévouée et de lui retourner une partie du corps en fait. Et si cette personne est coupable des maux dont on l'accuse, elle aura toute une partie des membres de son corps qui vont être retournés. Donc, c'est assez terrible.
Mince alors. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi des signes, des nombres accolés, des figures, probablement celles de la victime, Michael Martin.
Oui, tout à fait. Il y a tout un tas, toute une symbolique qu'il y a derrière. C'est toute une symbolique qui transparaît. Alors, notamment dans ces signes, on peut noter ce que l'on appelle des caractères, qui sont des lettres bouletées, des étoiles, qui apparaissent très souvent dans les tablettes, mais aussi des noms barbares dont on ne connaît pas le sens précis, qui sont souvent des mots qui ont plusieurs sens, qui peuvent avoir un sens en hébreu, un sens en égyptien, un sens en grec. Et le magicien joue sur plusieurs tableaux et sur ses sens différents. Donc on retrouve des formules aussi, des signes, des dessins. On a des dessins qui représentent les personnes qui sont envoûtées parfois à l'intérieur de ces tablettes.
Et puis, des systèmes d'écriture qui changent alternativement de sens par ligne. Une sorte de, là je pense à la défiction de Céline Honte.
Oui.
Le nombre 365 qui revient visiblement régulièrement.
Voilà. Toute une symbolique qui est utilisée par le magicien, dont lui seul a le secret et qu'il utilise à bon escient quand il le juge utile à travers les défictions. Parfois même, on utilise le palindrome à des formules qui se raccourcissent, dont on enlève une lettre de chaque côté et on a une formation en lettres, ce qu'on appelle une formation en lettres d'oiseau, et on se retrouve à la fin avec une lettre. Et c'était des usages qui étaient beaucoup utilisés par les magiciens.
Michaël Martin, pour nos auditeurs de France Culture, je rappelle que vous êtes docteur en histoire ancienne, que l'essentiel de vos recherches porte sur la magie antique. Six tablettes donc, d'envoûtement viennent d'être découvertes au Mans, sur un site gallo-romain. L'occasion, bien sûr, de faire le point sur ces étonnantes pratiques et bien sûr ces étonnants rituels. Sur ces tablettes, comment s'opère le cheminement textuel ?
Il y a un cheminement textuel qui est très précis, en fait. Elles sont construites souvent de la même manière. On a tout d'abord, et ça c'est essentiel, le nom de la personne qui est envoûtée. Nom de la personne avec la filiation par la mère. C'est la seule qui pose aucune difficulté, qui soit incontestable.
Parce qu'on n'est pas sûr du père.
Parce qu'on n'est pas sûr du père, voilà, exactement. Donc, filiation par la mère. Ensuite, vont venir se rajouter des éléments à travers les siècles. C'est notamment les mots qui sont souhaités. Alors sur les premières tablettes, c'est tout d'abord le mutisme. On demande que la personne reste muette. Et puis petit à petit, avec les siècles qui s'écoulent, les mots vont devenir de plus en plus terribles. On a véritablement une gradation dans les mots qui sont souhaités. Et aussi progressivement, à partir de l'époque hellénistique, tout un tas de formules qui vont venir se rajouter à ce cheminement rituel. Des formules donc à travers des noms barbares et ou alors des formules magiques qui viennent avec des invocations aux divinités.
Qui jette le sort ? A-t-on affaire, par exemple, à de réels spécialistes, des magiciens, même des sorciers ? Vous utilisez plutôt le mot magicien, semble-t-il. S'agissant de véritables corps de métier, peut-être un peu particuliers.
Oui, on peut penser que c'était des spécialistes, car il y a véritablement une complexité. Le rituel est très complexe dans les textes que nous avons. Alors, il y a des textes qui sont plus ou moins complexes. On a des textes qui sont du VIe siècle, on a juste le nom de la personne, dont là on parle de texte onomastique. Mais progressivement, on a des textes qui deviennent très complexes, avec ces formules. Et puis, ce que l'on a aussi, c'est qu'on retrouve des formules à des milliers de kilomètres d'écart. Donc, véritablement, il y avait des spécialistes qui se transmettaient ces textes, soit de manière écrite, soit de manière orale, mais quoi qu'il en soit, des spécialistes qui travaillaient dans le domaine magique.
Et puis, on ne peut pas passer sous silence la découverte d'un atelier ou d'un hôtel de magiciens à Chartres. Une très, très belle découverte, dont j'avais d'ailleurs parlé dans le Salon Noir lors de sa sortie.
Une découverte unique, effectivement. On a très peu de découvertes comme cela, elle est unique. Et véritablement avec tout un atelier de sorciers en fait qui a été découvert à cette occasion.
Donc des vases, des formules aussi magiques.
Des formules qui sont écrites sur l'autel justement et qui sont représentées avec tout l'atelier du magicien, tous les objets qu'il avait autour de lui pour mener à bien un rituel magique.
C'est étonnant qu'on n'en ait pas retrouvé d'autres dans le monde antique.
On a retrouvé très peu. Pourquoi ? Peut-être simplement parce que le magicien reste encore un anonyme pour nous. Donc, où on a découvert des fois des objets usuels, qui sont peut-être des objets magiques, mais dont on n'a pas vu le caractère magique parce qu'ils étaient retrouvés dans un contexte tout à fait normal.
Est-ce que la magie est interdite par la loi ? Interdite par la loi.
La magie est tolérée par la loi. Elle est interdite à certaines conditions. Elle est interdite lorsqu'elle porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Donc lorsqu'elle provoque la mort, là, elle est interdite, bien sûr. Mais elle est tolérée. On voit ces pratiques qui ont cours dans ces sociétés, qu'elles soient grecques, qu'elles soient romaines ou gallo-romaines. Elles permettent véritablement à la société de vivre.
Et où dépose-t-on où jette-t-on ces tablettes fois réalisées ?
Il y a véritablement des lieux de dépôt qui sont bien définis. Ils nous sont connus notamment par les papyrus magiques. Ces lieux de dépôt, quels sont-ils ? Alors, il y avait déjà les tombes. Pour une raison tout à fait naturelle, c'est qu'on déposait les envoûtements dans les tombes parce que c'était à l'âme du défunt, au démon, de véritablement accomplir l'envoûtement. C'est lui qui devait agir et accomplir l'envoûtement pour trouver le repos après, par la suite. Le repos lui était promis s'il accomplissait l'envoûtement.
Il y a aussi des puits, la mer, en général l'eau beaucoup.
L'eau aussi, dans des sources. On trouvait des puits, des sources. On a trouvé des puits sur l'Agora d'Athènes, des sources comme la source des Roches à Chamalières ou la source à Baf. C'est la même chose. Non, toujours en lien avec le monde octonien. Ça, c'est une constante, un lien avec le monde octonien.
Michael, Martin, les tablettes avec leurs maléfices sont généralement donc jetées dans les profondeurs, un puits, une tombe. Mais à quels dieux infernaux sont-elles réellement dédiées? Des dieux donc bien sûr octoniens, des dieux des profondeurs?
Oui, mais pas nécessairement. On trouve des dieux des profondeurs, bien sûr. On trouve notamment le cas de Déméter qui est en lien avec les enfers, évident. Donc Déméter est souvent invoqué. On trouve aussi souvent Hécate, qui était la déesse de la magie par excellence, sur de nombreuses tablettes. Mais on trouve aussi d'autres divinités comme Hermès qui, par son rôle de messager, de dieu psychopompe, pouvait aussi accomplir ce genre de défiction.
Michael Martin, quel est le cheminement rituel? Vous souhaitez jeter un sortilège à votre pire ennemi. Que va-t-il se passer?
Alors déjà, le mode d'emploi, on va dire, d'une tablette de défiction. Le mieux, c'était de consulter un spécialiste. On allait voir donc un magicien, et puis on lui parlait de son affaire. Et là, le magicien allait mettre donc ce rituel en œuvre. Donc on avait toute une phase rituelle qui allait s'enclencher, qui était faite avec des purifications, comme dans la religion. Beaucoup de purification dans la magie, dans les papyrus magiques, on retrouve beaucoup cette idée-là. Et ensuite, une fois que ces purifications ont été réalisées, on va consacrer la tablette. On va l'écrire avec notamment un stylet de bronze. On va l'écrire, on va la plier, on va parfois la clouer pour renforcer son caractère magique et on va aller la déposer. Et là aussi, avec autour des formules, des incantations qui avaient lieu. Et on va la déposer très souvent dans une tombe. On va utiliser le canal à libation et on va ce qui faisait d'ailleurs qui rendait très mécontent les familles. Des défunts qui des fois payaient des personnes pour monter la garde devant les tombes ou qui obstruaient ces canaux à libation pour pas qu'on les utilise.
Sur les 2000 tablettes mises au jour entre l'Égypte et l'Angleterre, une typologie bien sûr des malédictions peut être entreprise. Il y a bien sûr le caractère judiciaire, mais il y a aussi le caractère, on va dire, sportif, parce que non pas pour le football, mais pour la course de char, on fait donc des défictions,
oui,
des malédictions.
Dans un cadre agonistique, les courses de chars, beaucoup de tablettes en Afrique du Nord ont été découvertes dans ce contexte et pour dévouer finalement les factions. On parle de factions, la faction des bleus, la faction des verts, et on prend position pour l'une ou l'autre des factions. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce n'est jamais, d'après ce que l'on sait de ces textes, une partie adverse qui en envoûte une autre, c'est simplement les parieurs. C'était les parieurs qui envoûtait l'équipage d'en face pour lequel il n'avait pas joué.
Et puis, il y a bien sûr l'érotisme. Il existe là, bien entendu, une magie amoureuse.
Oui, une magie amoureuse que l'on retrouve à travers ces tablettes. Là aussi, avec deux finalités, soit pour écarter un rival, pour éliminer un rival, soit pour attirer à soi la personne aimée. Et le plus souvent, c'était une femme qui était attirée à soi.
Une sorte de filtre d'amour?
Une sorte de filtre d'amour à distance, voilà, pour l'attirer. Et puis, ce qui est intéressant dans ces tablettes érotiques, c'est qu'elles sont faites pour durer. Ce n'était pas pour un amour comme cela d'une nuit, c'était vraiment pour des amours, c'est pour toujours. Hein. On le voit sur les textes, c'est vraiment pour toujours. Les textes sont écrits pour toujours.
Il existe aussi d'autres objets de défiction. Vous parliez de clous tout à l'heure.
Oui, il existe des clous qui transpercent les tablettes. Le clou était utilisé aussi pour mettre... Dans les tombes, on en a découvert des exemples à Argentomagus notamment, mais aussi des objets comme des figurines d'envoûtement, ce qui est plus étonnant. On a plusieurs cas de figurines d'envoûtement qui étaient réalisées soit en plomb là aussi, soit en terre cuite, et qui étaient très souvent, ces figurines représentaient les mains liées dans le dos, les pieds liés, ou bien plus rarement transpercées avec des aiguilles.
Et puis, il y a cet exemple de petites statuettes mises dans une sorte de petit sarcophage, de petit cercueil de plomb découvert à Athènes.
Là aussi, c'est la même volonté, véritablement, de magie sympathique. On souhaite la même chose à la personne que l'on est en train d'envoûter. Donc, on la place dans un sarcophage, dans un couffin de plomb, et on lui souhaite la même chose.
Michael Martin, je reviens sur les plombs magiques du Larzac, donc bien sûr découvert en France, car une malédiction peut entraîner année et peut en entraîner une autre. Pour illustrer cette bataille au cœur des mondes infernaux, je cite un fragment du texte. « Envoie le charme de ces femmes contre leur nom, cela est un charme de sorcière ensorcelant des sorcières. » Cela fait vraiment froid dans le dos.
Oui, tout à fait. C'est un des textes les plus intéressants parce que c'est un texte qui est très complexe, un des plus longs, comme on l'a dit, en langue gauloise, et où il y a eu plusieurs écritures dessus. La tablette a été, on a un réemploi de la tablette, ce qui est assez rare. Donc on voit très bien que plusieurs affaires sont en train de se mêler. Et ce qui est intéressant dans cette tablette, c'est qu'on a le cas de sorcières. Ce qui est rare, je viens de le dire, parce que on a plutôt le cas d'hommes qui pratiquent la magie dans ce monde gréco-romain. Donc, les sources directes nous apprennent cela. Alors que les sources littéraires nous montrent des femmes qui évoluent dans l'univers magique, les sources directes, véritablement, montrent que c'est les hommes qui pratiquent la magie. Et finalement, là, c'est l'exemple qui confirme la règle.
La défiction, en tout cas, est une magie très offensive. Comment s'en prémunir ?
Comment s'en prémunir en portant sur soi des objets magiques, d'autres objets magiques, des phylactères, des amulettes qui viennent contrer les attaques magiques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait être des phylactères en or ou en argent que l'on roulait et que l'on plaçait autour du cou sur une chaînette et qui, comme ça, défendait contre les attaques maléfiques que l'on pouvait porter contre sa personne. Et soit c'était aussi des petits objets que l'on appelle des intailles, que l'on portait là aussi sur soi et qui avaient un pouvoir minéral et le pouvoir d'une figure qui était représentée dessus et là aussi qui défendait la personne qui portait l'intaille.
Dans quelles conditions ces pratiques de sorcellerie périclitent-elles ? Est-ce d'ailleurs réellement le cas ?
Alors, elles périclitent en apparence, uniquement en apparence, puisqu'on voit véritablement ces pratiques qui continuent, qui passent au Moyen-Âge, mais sous des formes un peu différentes. Donc, on a des textes de défiction jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Et très rapidement, c'est les figurines d'envoûtement qui vont prendre le relais. C'est ce que l'on retrouve au Moyen-Âge. On a des figurines d'envoûtement. Pourquoi ? Parce qu'on a une perte au Moyen-Âge, on a une perte de l'écrit. Cet écrit va devenir un écrit qui est entre les mains des religieux et donc qui ne pratiquent pas la magie, évidemment. Donc il y a une délaïcisation de l'écrit et c'est les Perses. Et finalement, on ne retrouve que des formules orales et des figurines d'envoûtement. Et on verra.
Sauf au XVIIe siècle.
Exactement.
Sauf au XVIIe siècle. Où cela ressurgit, voilà. Peut-être même par l'archéologie.
Exactement. Ça, par l'archéologie, ça, rapidement. Voilà. Donc, on a quelques exemples. On a 4 ou 5 exemples de tablettes qui ont été découvertes au XVIe et XVIIe siècle en Angleterre, qui sont de véritables tablettes de défiction dans un cadre véritablement moderne.
Et vous pensez qu'elles ont été
Ce sont véritablement des copies de pratiques antiques, en fait. L'Angleterre ayant beaucoup de tablettes de défiction, on a véritablement une copie de ce qui se pratiquait dans l'Antiquité.
Ces pratiques antiques sont bien sûr le reflet des petites et des grandes haines. En un mot, je dirais des passions. Qui, elles, sont toujours bien contemporaines.
Oui, tout à fait. On voit qu'ils sont à la fois contemporaines et à la fois universelles. On retrouve ça dans toutes les civilisations, cette volonté de véritablement traduire des passions. Et les tablettes de défiction nous apprennent essentiellement cela. Toujours quand j'étudie ces textes, je ne me demande pas si cela marchait ou si cela ne marchait pas. Je me demande toujours pourquoi tant de personnes y ont cru, ont voulu y croire. C'est tout simplement parce qu'elles représentent le dernier espoir.
Michael Martin, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, Sois maudit, malédiction et envoûtement dans l'Antiquité, publié aux éditions Errance. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré aux Mayas et au colloque qui vient de se dérouler au musée du Quai Branly autour du thème Société Maya millénaire, crise ou passé et résilience. Le Salon Noir a été réalisé par Luc-Jean Reynaud, à la technique Vincent René. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.com. Retrouvez 3 années d'archives sur le site inrap.fr.